Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h tout pile sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Roten sans flamme. On est là, on est bien, on va passer une magnifique émission. 2 heures en votre compagnie, on vous remercie de votre fidélité. Appelez vos amis, on sera encore plus nombreux parce que c'est l'émission le lundi à ne pas rater avec un casting de folie. On est avec Benoît Boutron. Salut Benoît.
Salut Jérôme. Salut à tous.
Ça va Benoît?
Ravi de te retrouver. Jérôme,
c'est régalé. Le week-end de Ligue 1. La semaine dernière c'était difficile. Autant là, alors déjà qu'il y avait quasiment pas de match.
Ah ouais.
Il y en avait 7 au lieu de 9. C'était compliqué. Et puis, prestations
sur le 7 matchs. Dugas, on a vu combien?
Dugas, il les a vus parce que c'est un mec qui bosse et il vient analyser tout ça le lundi.
Pardon.
On est avec Christophe Dugarry. Salut Dugas. Ça va, Dugas?
Bonsoir les copains. Ravi d'être
là. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
J'ai regardé PSG Lens. C'est dire.
C'est quoi la voix là?
Un peu enroué. Écoute,
ça veut dire qu'il a dormi. Il a dormi dehors.
Je me suis couché un peu tard, effectivement.
Voilà. Et la porte de la maison était fermée. Il a dormi sur le perron.
On la connaît. Ah, du tout. J'ai une femme adorable. J'ai une femme adorable qui m'a accueilli avec un peu de
canard comme ça, à mon avis.
D'accord.
Bon, Eric, tu connais ça, toi.
Comment ça va, Jérôme? Salut, Benoît. Salut,
Eric.
Dugas, salut à tous.
Bravo Eric, quelle victoire.
Ouais, t'as vu, c'est beau. Petite annonce, Osiris sera sur la route le 25 avril, donc en Bretagne, à l'Open Guindé, à Taden Dinan. Voilà.
Taden Dinan.
Gros tournoi de tennis, attention. Le samedi, quand nous on joue le soir, le samedi, il y aura Bruguera, qui y a un tournoi des légendes. Bruguera, Sergi Bruguera, quand même.
Mais quel âge
c'est qui c'est Sergi Bruguera? Merci.
Il a 70 ans.
C'est un tournoi des légendes. Non, il doit avoir 40 ans.
Mais c'est pour les jeunes, Osiris.
40, qu'est-ce que tu racontes, Bruguera? 40, j'en ai 48, il est plus vieux que moi, Bruguera.
Vous invitez les EHPAD du coin ou pas, Eric, là? Comment ça se passe?
Tu rigoles, quoi. Il y a plein de jeunes qui. Oasis est reparti sur les routes. Il y a plein de jeunes qui écoutent maintenant. Ah, okay. Le dernier concert, il y a plein de gamins qui chantaient, c'était bien.
Certainement.
On te croit. Ils ont plein de places assises. Tu vois, ça bouge pas.
Bravo, Eric, en tout cas. On a hâte d'avoir les prestations de Bruguera décryptées par Eric.
Oui, je peux vous faire un décryptage.
Grande émission, grand Roten sans flamme, parce que c'est une semaine Ligue des Champions. Et on va en parler dès ce soir. Demain, c'est Liverpool-PSG, le quart de finale retour de Ligue des Champions. Ce soir, on parlera de Luis Enrique. Est-ce que le projet parisien dépend uniquement de l'entraîneur espagnol du Paris Saint-Germain? La prolongation est en bonne voie. On fera le point avec Arthur Perrault à 19h. À 19h30, c'est Roten sélectionneur. Et oui, petit à petit, on s'approche de la Coupe du Monde. RMC Radio officielle, tous les lundis, la liste actualisée de Jérôme Roten. Et un débat autour de Ryan Cherki qui a été étincelant hier avec City sur la pelouse de Chelsea, 2 passes décisives. Un débat pour Dugas. Faut-il traiter Cherki comme un joueur différent? On vous attend là aussi au 32-16 pour en parler avec nous. Rassurez-vous, il retrouvera de la voix pour aborder ce sujet.
C'est de la provocation, ça, non?
Oui. Oui, tout à fait. Exactement.
Okay. Ça a le mérite d'être clair. Merci beaucoup.
À 18h45, allô Jérôme, on parlera de l'arbitrage avec la sonorisation hier soir de Benoît Bastien lors de ce Lyon.
Parle bien.
Lorient, on l'a entendu expliquer une décision arbitrale.
Les gens n'ont rien entendu.
Mais à l'arbitrage vidéo. On sera donc avec Bruno Derien qui pourra en parler avec nous. Et puis à 18h30, on va faire le procès de tous ceux qui se réjouissent d'un probable départ de Balerdi. C'est une info qu'on pourra vous donner à 18h30 avec Florent Germain. On se dirige vers un départ du plus ancien joueur de l'effectif marseillais, Léo Balerdi, qu'on a si souvent évoqué dans Roten sans flamme. Mais tout de suite, justement, on y va sur l'OM. Parce que Jérôme, c'est incroyable, les Marseillais sont de retour à Marbella.
Marbella, une destination festive, connue pour ses adresses exclusives.
Buenas tardes.
Une station balnéaire huppée qui attire la jet set du monde entier.
Mais
Marbella, c'est aussi un centre-ville authentique.
Pouvoir échanger, pouvoir avoir des petits moments aussi avec quelques groupes de joueurs.
Des montagnes qui surplombent la ville.
Non, entiendes.
Les gens viennent pour le paysage, mais aussi pour la fête.
Ça fait combien de temps que vous êtes mis à la guitare?
À la basse, c'est pas pareil.
C'est une ville qui est en train d'exploser. On est en train de prendre le pas sur Ibiza.
C'est muchas gracias.
Mais c'est un visage plus sauvage que viennent chercher les amoureux de la nature.
On a eu nos activités et ça s'est vraiment très très bien passé. C'est très très positif pour nous.
Les projets qui étaient habillés à Bendidos.
Il est où Jean-Michel? Il a l'infirmière avec lui.
Alors l'objectif Ligue des Champions passe par l'Espagne pour l'OM. Le groupe est parti aujourd'hui direction Marbella et ira directement à Lorient pour le match samedi à 17h. Ce stage de cohésion pour rester soudé, concentré dans un environnement privilégié. On rappelle qu'ils étaient déjà partis les Marseillais à la fin du mois de février. C'était quelques jours après l'arrivée d'Habib Bey. C'était avant la victoire contre Lyon. Un stage qui rappelle les fameux Ritiro il y a un an sous Roberto De Zerbi et un point classement à 5 journées de la fin. L'OM est 4e, à 1 point de Lille 3e. 5 équipes se tiennent en 4 points. Lille, Marseille, Lyon, Rennes et Monaco. Jérôme, c'est la une de Rotten sans flamme. L'OM, la stratégie du Ritiro, est-ce que ça devient ridicule? 32-16 pour en débattre avec nous. Est-ce que tu comprends qu'on parte encore en stage comme ça en fin de saison, non, alors qu'il n'y a plus qu'un match par semaine?
Non, pas du tout. Moi, je ne comprends pas. Alors après, il y a des circonstances, en effet, où il y a des moments dans la saison. Et je trouve que le premier, je n'ai pas été critique parce que c'est une façon pour Habib Bey de gagner du temps, de les avoir
au
quotidien, de les avoir sous la main. La preuve, c'est qu'il avait fait pas mal d'échanges avec eux pour les connaître et peut-être mettre en place sa stratégie. Certains la cherchent encore, mais au moins ça a le mérite au moins d'avoir passé quelques jours ensemble et c'était totalement logique. Après, en effet, t'as l'impression que c'est récurrent à Marseille. Dès qu'il y a un objectif à aller chercher, il faut se barrer de Marseille, il faut se barrer de la commanderie. Alors moi j'ai du mal, mais moi c'est pour ça que j'aimerais bien avoir, bon on les aura pas parce qu'ils sont braqués, les dirigeants marseillais, pour nous expliquer en effet quelle est la stratégie. Pourquoi partir de Marseille, loin de Marseille, quand tu sais que de toute façon les claques tu les as déjà reçues et que les gens sont mécontents. On l'a encore vu sur le match contre Metz, le stade était loin d'être plein, il n'y avait pas une ambiance incroyable, pourtant Marseille a gagné. Alors c'était pas un grand spectacle, on est d'accord, ouais, mais au moins ils ont gagné. Tu sens que les gens ils subissent un peu, il y avait des mécontents encore même avec la victoire, et ce qui est logique, et qu'ils fuient ça en fait, les joueurs, les dirigeants, pour être loin. Donc moi la stratégie, je la comprends pas. Et puis plus tu vas le faire, moins il y aura d'effets parce que les gens sont on s'habitue à tout et on est passé par là aussi les joueurs.
Eh oui, t'as raison, les joueurs. Bien sûr.
Non mais tu sais, tu peux passer du temps ensemble, beaucoup de temps ensemble, il y a pas de problème. Au début de saison, c'est pour ça qu'on fait souvent des stages du début de saison et c'est là que les affinités elles se créent.
Ça crée des liens.
Après, dans l'année, il y a des choses qui se mettent en place et d'autres choses qui ont du mal à se mettre en place, en effet, où tu trouves qu'il y a des clans, il y a pas assez d'affinités entre les joueurs, et je parle pas des affinités sur le terrain là, je parle en dehors du terrain, et c'est bien là qu'on passe le plus de temps en général qu'on est dans un vestiaire. Et donc s'il y a pas d'affinité, si les mecs ils s'aiment pas plus que ça dans un vestiaire, écoute, c'est problématique. Et on l'a vu sur certains matchs, quand l'équipe elle lâche, quand le coach il dégage, quand les résultats sont pas bons, quand tu prends des claques, t'as tendance à rejeter la faute sur un tel, et ça crée des tensions. Alors tu peux faire des stages dans ce sens-là en cours de saison. Encore une fois, je te dis, ça dépend des périodes.
Mais qu'est-ce que tu vas chercher
celle-là,
en fait.
Mais celle-là, je sais pas, parce que en fait, les joueurs aujourd'hui,
je vais vous le dire.
Vas-y, du gars, qu'est-ce qu'ils vont chercher?
Ah non, mais moi je pense que Jérôme se trompe d'analyse. C'est pas un problème de joueur, c'est un problème que Marseille reste et sera à vie un environnement particulier que tu ne peux comparer avec nul autre. C'est comme c'est. Je vais pas dire que c'est bien ou que c'est mal. J'ai eu la chance, parce que moi je pense que c'est un privilège, une chance, même si ça s'est pas toujours bien passé, de jouer à l'OM et de connaître cet environnement. Je le connais pas aussi bien qu'Éric, bien évidemment. Je le connais pas parfaitement non plus, bien évidemment. Mais moi, ce que je ressens quand je vois ce genre de choses-là, je peux comprendre ce que dit Jérôme, parce qu'il a d'un œil extérieur, ça paraît incroyable qu'il faille fuir ton club, ta ville, pour pouvoir être performant, concentré, tout, je comprends, mais il a un œil extérieur. Quand tu connais Marseille, quand tu as eu la chance de vivre ça, quand tu sais qu'au quotidien tu vas aller acheter ton pain et qu'on va te parler de l'OM,
les gens vont
constamment
casser la tête,
sous cette forme de pression, exactement, c'est juste pour essayer de trouver un peu de tranquillité. On va tout à l'heure parler de Balerdi, aujourd'hui Balerdi qui va chercher son pain ou ses enfants à l'école ou ci ou là, tous les jours on doit lui casser la tête, tous les jours, et peut-être une, deux, trois, quatre, cinq fois par jour. Donc au bout d'un moment, pour préparer un match, pour être peinard, pour avoir un objectif, je pense que c'est un peu pour isoler un petit peu l'équipe, les joueurs,
comme tu le disais, Jérôme, le mal, il est fait. Les supporters sont énervés, sont résignés. Alors, ils sont pas trop énervés.
Ils sont résignés.
Tant mieux qu'ils soient pas trop énervés. Comme ça, voilà, comme ça, il n'y a pas de débordement et c'est très bien comme ça. Ils sont résignés. Donc, quand tu vis là-bas au quotidien, tu vas avoir des réflexions, tu vas avoir des
voilà. Oui, mais c'est toujours le cas du gars. Tu fuis ton quotidien,
mais,
en fait.
Non, c'est pas tout. Non, mais pas du, mais tu fuis ton quotidien, tu fuis quelque chose qui va être négatif pour la performance. Ça veut dire quoi, tu fuis ton quotidien?
Bah, en fait,
tu fuis pas ton quotidien.
À quoi ça sert d'en faire 4 ou 5 et tous les ans, en fait, à un moment, c'est que t'es pas bien chez toi, en fait.
Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis 4 ou 5, depuis tous les ans? Parce que tu te retrouves dans une situation, c'est la situation qui fait que la situation.
Donc, dès que tu seras en course pour la Ligue des Champions face à des adversaires directs, tu partiras en stage les 3 dernières semaines de la saison.
Eh ben, pourquoi pas?
Dans ces cas-là, du gars.
Parce que.
Tu changes pas ton nom ni ton logo, t'appelles toujours l'OM, mais tu t'appelles l'Olympique de Marbella, tu t'appelles.
Voilà, c'est ça, exactement.
Mais Eric,
moi, je suis pas loin d'être d'accord avec toi, du gars.
Je dis pas que c'est bien. Je dis pas que c'est bien, mon poulet. Je dis pas que c'est bien. Je te dis que quand t'as un environnement autant particulier, autant unique, tu cherches des solutions. Je te dis pas que c'est la meilleure des solutions, mais j'ai envie de te retourner le truc, Eric aussi. Est-ce que c'est si grave que ça? On en fait un débat et tout, c'est un peu peut-être un peu.
Ah non, c'est pas grave. Non,
moi, j'ai pas l'impression que ce soit si grave que ça. Aussi, si les mecs, ils ont besoin de ça et que pour pouvoir, ça a marché la première, ça a marché quand ils ont fait avec De Zerbi. Si ça marche une nouvelle fois et qu'ils sont, que ça leur permet d'atteindre l'objectif, tant mieux. Il y a pas de problème, c'est qu'ils auront réussi à atteindre l'objectif qu'ils se sont fixés. Moi, ça me dérange pas et ça me choque pas outre mesure. Mais je comprends aussi les petites réflexions, les mecs qui vont te chambrer. Ah ouais, comme tu dis là, c'est l'Olympique de Marbella. Les mecs, ils ont peur de nous, des supporters, ils ont peur de leur ville, ils ont peur de l'ambiance. Je crois pas que ce soit ça.
On a fait plusieurs fois ce débat. La première fois, rappelle-toi, on avait fait le débat ensemble. La deuxième fois aussi, d'ailleurs. Moi, je défendais ça. Je défends généralement ça parce que j'aimais bien. Alors c'est vrai, tu as raison. Ça se faisait souvent en début de saison, mais bon, c'est pas un retiro comme on dit. On disait retiro parce que il va falloir dire une mise au vert parce que c'est Habib. Une mise au vert, parce que c'est Habib en français, c'est très bien aussi. Et donc moi je j'aimais les stages de début de saison parce que c'est vrai que ça crée des liens, les nouveaux, tu les intègres vite, tu fais le code, tu sors, tu crées une histoire d'équipe. On l'a fait avec Duga même en équipe de France, on a fait les cons et moi je trouve que ça c'est bien. Écoute, j'ai l'impression de t'avoir appris beaucoup de choses,
la vie, l'attitude, le comportement, le respect, la diététique.
Il faut partir en stage pour tout
exactement.
Ça.
Exactement.
Okay. Exactement. Et que ça arrive en cours de saison aussi. Moi, je trouve que j'aimais bien aussi de temps en temps. En plus, ça te sort un peu de la maison. Il y a pas de souci. Et c'est pour ça que je suis partagé sur ce débat parce que moi, j'ai défendu les retiros et les dernières mises au vert. Sauf que là, ça fait quand même deux mois, non? C'est ça,
puisque
Habib est arrivé. Et là, si tu veux. J'ai l'impression quand même que l'OM part pas pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que les bonnes raisons, c'est ce que vient de nous expliquer Duga, environnement compliqué, pour finir la saison sans prendre trop de pression, tu pars un peu loin. Donc pourquoi pas. Sauf que ça dénote malgré tout un état d'esprit de l'équipe. Et peut-être que cet état d'esprit de l'équipe explique les mauvais résultats de cette année, ou en tout cas les craquantes quand il y a eu des matchs importants. C'est-à-dire que mentalement.
Attention, juste un bémol, Eric, un bémol. Tu dis un état d'esprit de l'équipe. C'est pas l'équipe qui décide ça. C'est l'entraîneur,
c'est la direction.
Donc un état d'esprit des dirigeants, de la direction.
Oui. Eh ben peut-être que du coup, on a vu que les joueurs dans les moments clés, voire dans les grands moments, Ligue des Champions, gros match et tout, ben ça passait au travers. Donc tu peux te dire, ben les joueurs, peut-être que mentalement, ils sont pas tous faits pour jouer dans ce club-là. C'est possible, hein, ce serait pas les premiers ni les derniers. C'est compliqué de jouer à l'OM. Et puis peut-être que là, ça démontre que au niveau du club, plus haut, eh ben aussi on a du mal à gérer l'environnement, on a du mal à gérer les grands matchs, on a du mal à gérer la pression d'un sprint final, puisque finalement, ça fait deux ans que l'an dernier aussi, sur le sprint final, ça avait eu lieu. Hein,
et t'es le premier à nous dire, Eric, que le climat est moins difficile aujourd'hui qu'il y a quelques années à Marseille.
Ah non. Mais Dugas, il a vécu, lui, il a vécu une période chaude. Hein, ça a été très chaud. Et alors qu'aujourd'hui, Dugas l'a dit, et on le dit chaque fois que Flo Germain vient avec nous, il nous le dit, c'est pas si fiable, entre guillemets, c'est-à-dire que les supporters sont désabusés. Oui. Mais ils sont pas dans on va casser, on va, tu vois, ils sont désabusés, ils vont pas au stade. Et ça, je trouve que c'est la bonne réaction.
Mais c'est ça qui est encore plus gênant.
L'équipe te plaît pas, ça joue mal, tu te régales pas, tu restes à la maison. Mmh. Voilà, c'est ça la truc, tu vas pas casser, et tant mieux que ce soit comme ça. Donc, en effet, moi je trouve que l'environnement est plutôt pacifié, que les supporters sont plutôt adultes et on le connaît.
Comment tu peux
le
défendre alors
et malgré, ah mais non, mais je défends pas, je défends pas. J'essaie d'expliquer comme du gars. Je viens de te dire que celui-là de Ritiro là ou celui-là
on
de celle-là de mise au vert, je la trouve un peu de trop et elle dénote une fébrilité à tous les étages, qui peut expliquer peut-être les résultats de l'OM cette année.
Non, puis surtout Eric, en plus, tu peux Eric et Dugas, tu peux faire ce que tu veux, essayer de focaliser le groupe, faire prendre conscience encore plus aux joueurs que les résultats sont importants. Mais même si tu fais un parcours sans faute, ça se trouve tu finiras quatrième en fait.
Oui, voilà.
Tu finiras à la place du con même.
Oui,
avec
mais le but du jeu c'est de le faire sans faute.
Oui,
quand même,
non, si mais on est d'accord. Mais ce que je veux te dire, c'est que là où j'ai du mal à le comprendre à ce moment-là, c'est que outre
oui, la pression elle est plus sur toi.
Et puis vous l'avez dit, le contexte à Marseille, si t'es pas capable, en effet, comme tu le disais, Dugas, d'aller, alors déjà, si t'as pas envie d'aller chercher ton pain parce que c'est chaud pour toi, tu restes à la maison et on l'a tous fait au bout d'un moment. Tu vois, que ça soit à Marseille ou ailleurs, parce que il y a quand même des villes où c'est aussi, il y a une ferveur où les gens sont très proches de toi, ils ont l'impression de te connaître et te faire des petites réflexions. D'autre part, c'est que en effet, quand tu regardes le classement et tu regardes le calendrier de l'OM, tu te dis que les mecs en prennent conscience.
Lorient, Nice,
tu vas jouer
Nantes,
à l'extérieur, tu vas aller trois fois à l'extérieur, ouais. Donc tu vas aller au Havre, à Nantes et à Lorient. Bon, je pense qu'il y a pire comme déplacement en effet sur cette dernière ligne droite, et tu vas recevoir Nice qui met pas un pied devant l'autre, et le dernier match en effet où là celui-là, je vais te dire, j'aurais peut-être compris en effet qu'il y ait un stage
avant
ce match-là, parce que ce match-là peut-être qu'il sera coup près et qu'il faudra le gagner ou ne pas le perdre pour pas
que
Rennes
passe contre Metz. Oui, mais sauf que contre Metz, tu souffres.
Ouais.
Ah, mais là, tu souffres contre tout le monde.
En réalité, il n'y a pas de match facile.
Il n'y a plus de match facile pour
l'OM. Tu fasses un stage à Marbella ou pas, d'ailleurs.
Mais après, moi, je vais te dire. Bon, on fait le débat, c'est bien, mais ils auront raison si ça marche, c'est tout. C'est terrible, mais c'est comme ça, parce que sinon ça va être ridicule. Imagine si tu pars là-bas et dès le week-end prochain, c'est où? C'est à Lorient.
À Lorient, ouais.
Donc imagine, tu pars là-bas et dès le week-end prochain
et
à Lorient,
une
déculottée. Ouais. Là, il va falloir assumer derrière.
C'est pour ça que.
C'est
ça la question du gars.
Ils iront pas à Marbella, ils iront en Italie, là, dans ces cas-là.
Non, mais après, comme dit Dugas, il n'y a rien de grave non plus, tu vois. Pour aller là-bas, ils volent des sous à personne.
Pour moi,
ça dénote une fébrilité à tous les étages du club, me semble-t-il.
Tu
fais ça tout le temps et toutes les années.
Tu fuis ton centre d'entraînement,
Eric.
Quand même,
hein. Eric, je te pose la question à toi parce que tu le connais bien mieux. Même si Dugas, t'es à jouer aussi, mais la Commanderie aujourd'hui. La Commanderie, nous, on y allait faire il y a quelques années une émission. Moi, j'y suis allé qu'une fois. Franchement, j'ai pas l'impression que ça soit quelque chose où tu peux pas être tranquille avec l'équipe, travailler dans la sérénité.
C'est un grand discours de Longoria, ça. Éradiquer la maladie de la Commanderie. Dans les bureaux de l'OM.
Mais c'était dans les bureaux qu'ils disaient, c'était pas le
Mais sur le terrain, c'est quand même un endroit. Je peux comprendre, si t'es à l'IGESA à Bastia, c'est le centre d'entraînement de Bastia, et que t'as envie, en effet, de te retrouver au calme, je veux bien que là, tu fasses un. Mais quand même, à la Commanderie, t'as quand même les moyens de te retrouver ensemble, de faire monter la pression et tout. Parce que je crois, ils dorment même sur place, s'ils peuvent.
Tu peux, bien sûr.
Oui, il y a tout ce qu'il faut là-bas.
Mais c'est dingue quand même. C'est pour ça qu'il y a des choses, par moment, tu vas chercher, si tu veux, les petites remarques. Et alors, en effet, il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave.
Et la seule chose peut t'arriver, c'est que ça marche et tu fasses le sans faute.
Exactement. Ils vont t'expliquer que c'est grâce à Marbella que tu as réussi à gagner. T'as raison.
Okay.
Mais pour moi, c'est ridicule.
Au moins qu'ils aillent à Marrakech. Tu vois, ça pourrait être sympa. Pourquoi pas. Accueillons Serge.
Je dirais que c'est grâce aux joueurs quand même. Parce que ça serait quand même relou de faire un sans faute et qu'on dise c'est grâce à Marbella et pas aux joueurs quand même.
Voilà, tu vois.
Mais imagine.
Ouais. Serge, supporter de l'OM au 32-16.
Salut Sergio.
Ouais. Salut, ça va.
Bienvenue, salut,
Dugas, il a tout résumé. Hein. C'est grâce aux joueurs et grâce à l'entraîneur, quoi, ni plus ni moins. Mais il me semble que l'année dernière, c'est un petit peu le même propos que vous teniez en disant, mais c'est pas normal, c'est si c'est là. Ça a été, je vois pas de quoi on fait un procès avant quelque chose. Je suis surpris qu'à chaque fois vous ayez à parler que de l'OM, quoi. C'est fabuleux, hein, parce que dans le championnat français, il y a que des problèmes à l'OM. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de sur les braises pour mettre le feu au stade. Ouais. Eh oui, non, mais vous rigolez.
Donc c'est de notre faute s'il y a le feu au stade, en fait.
Ah non, mais il n'y a aucun feu. Ouais. Mais oui, non, il n'y a aucun feu. C'est que tu fais tout pour qu'il y ait le feu au stade.
Ah, peut-être. Donc, je suis responsable de ça, en effet. Je suis responsable de la saison de merde, en fait. Aussi.
C'est bien de donner un rôle important à Jérôme, mais tout de même.
Saison de merde, pourquoi tu en as fait des meilleures saisons pour être
troisième à Monaco? Ah oui, déjà, Serge, t'es quatrième, déjà. Et t'as pris. Je te rassure, t'as pris une claque en Ligue des Champions, t'as pris une claque en Coupe de France, mais c'est vrai que c'est une très bonne saison. Mais Paris, on s'en fout de Paris. C'est pas pourquoi tu parles de.
Mais Serge,
écoute.
Mais pourquoi on parle tout le temps de ce club de merde? Parce qu'à vous écouter, c'est un club de merde.
Ah ben non, c'est pas du tout. On n'a pas dit ça, au contraire.
C'est toi qui le dis, là, ouais, Serge.
C'est on en parle parce que ça déchire les passions, justement.
Moi, je dirais jamais ça, surtout pas.
Non, mais Serge. Serge.
Serge.
Pourquoi tu te si fort?
Non, mais Serge, il y a un truc. Serge, il y a le truc parce que tu as l'air très énervé. Mais
tu as l'air
très énervé moins que ce que je pense, mais tu es un peu agacé, on va dire. Mais tu sais quand même que les gens les plus agacés à Marseille de ce que fait l'OM cette année, c'est les supporters quand même. Tu les entends après les matchs. Et les gens qui sont le plus durs avec l'équipe, ce sont les supporters, on est d'accord. Et ensuite.
Attends, Eric. Les supporters, ça dépend desquels. Parce que moi, ceux qui sont dans le stade, qui se font que craquer des fumigènes à te faire payer le club. À chaque fois des salles.
Non, mais moi je te parle des.
Eux ils vivent dans le système, eux tu vois, ils crachent même dans la soupe parce qu'il faut en parler au moment donné. Tu vois tous ces clubs de supporters, s'ils payent l'abonnement comme on le paye nous, hein, pas le même prix parce que là, 100 balles ils ont, eux, le match il revient à 10 balles, qu'est-ce qu'ils s'en battent les flancs de toute façon.
D'accord.
Je te rejoins sur le fait que ce qui est paradoxal ces derniers temps, c'est que les joueurs avant l'OM, ils sont bons. Quand ils sont à l'OM, ils sont pas bons. Et quand ils sont bons, ils sont bons. Donc, à un moment donné, il faudra m'expliquer ce qui
voilà. s'est passé. Et ensuite, le fait qu'ils partent comme ça au vert du Galadi, et on a fait le débat puisque tu nous as déjà entendu, moi j'aimais ça et je trouve que c'est bien pour se retrouver. Sauf que, d'ailleurs, on en a fait dans plein d'endroits, à Digne, on allait à plein d'endroits. Tout ça pour te dire que, malgré tout, à ce moment-là de la saison, quand tu l'as déjà fait l'an dernier, que tu l'as déjà fait une fois juste il y a deux mois, que tu le refais, ça montre peut-être à tous les étages du club un peu de fébrilité quand vient le sprint final. Et c'est pas cracher sur l'OM que de dire ça.
Mais au niveau de la présidence, c'est sûr.
Économiquement, on a compris quand même que le club était en grande difficulté et que cette troisième place était tellement importante que ils voulaient mettre tous les atouts de leur côté sur cette fin de saison. Voilà, on fait un débat sur ça. C'est pas si grave que ça.
Serge, écoute-moi. Moi, ce que je comprends pas, c'est que tu nous reproches de faire faire un débat qui a pas besoin d'avoir lieu entre guillemets, et tu nous dis derrière que c'est un club de merde, donc ou une équipe
non,
de merde.
J'ai pas dit, ah non,
c'est encore plus dur que nous.
Par jour, quoi. Mais tu es fou, quoi. J'ai jamais dit que c'était un club de merde. Non, j'ai jamais dit ça.
Et donc, vu que c'est pas un club de merde, c'est pour ça qu'on en parle tous les jours. Tant mieux.
Moi, jamais. Écoute-moi, moi, je suis un supporter, mais de tous les temps. J'ai 60 barreaux, donc moi, j'ai connu à l'époque des Magnusson, des Gerzino et compagnie. Et j'ai connu, parce qu'on était 6000 dans le stade, mais j'ai l'impression qu'il y avait 2 millions de personnes dans le stade. L'époque de Format. Donc, avec les Minons et Marc Pascal et toute cette équipe, avec ton équipe à toi, tu vois, les Chancel, les Thierry Chancel et compagnie. Donc, non, c'est, moi, je suis, moi, ça, écoute-moi, ça me ruine. Tu veux que je te dise, moi, je paye le truc. Et
t'es
un mec, t'es en Coupe d'Europe, tes supporters, soi-disant, ce que vous appelez les supporters, t'es en Coupe d'Europe, tu tournes le dos et tu fais la grève des encouragements, mais tu l'as vu qu'à Marseille, ça. Tu l'as vu qu'à Marseille, Eric. Au moment donné, c'est le meilleur public des meilleurs publics. Pas tout le monde. Voilà, bon, tu vois, après, c'est un autre débat. Ça, c'est un vrai débat.
Merci d'être venu dans Antenne Sans
Serge, tu veux pas aller à Marbella aussi pour te calmer un peu, non? Mais écoute, Serge, moi, je t'invite si tu veux. On y va.
Serge, tu fais un procès d'intention à Jérôme, mais on a la preuve par un extrait sonore que Jérôme est aussi un fan de l'OM. Écoute.
Et allez, l'OM!
Et voilà, allez l'OM, tu vois, il le dit le soir de Coupe d'Europe pour l'OM.
Tu vois, c'est un montage, c'est l'IA ça.
Tu vois, c'est bon, merci Serge, j'ai devenu au 32-16.
Merci en tout cas.
Bye bye. Bonne semaine.
Il est arrivé au Las de Flamme, Serge.
Ah ouais, il était pas énervé. Et pour faire plaisir à
J'ai pas envie de le croiser, le jour où il va être énervé quand même.
Invite-le à la pizzeria.
Tu comprends pourquoi les mecs ils partent à Marbella? Imagine, ils tombent sur Serge.
J'ai changé d'avis, c'est bon, ça y est.
Tu as raison, Jérôme. S'il vient à la Casa di Meco, qui se présente quand même, qui l'avertisse, je vais
offre-lui la pizza, je te le dis.
Ce qui est admirable, c'est de voir l'expérience d'Eric Di Meco qui sait parfaitement gérer ce type d'enflammade, quoi.
Serge, c'est bon.
C'est l'histoire de tous les supporters et de tous les clubs. C'est-à-dire qu'ils aiment qu'on parle des clubs que quand on dit du bien. Et quand on parle pas de ces clubs-là, ils gueulent parce qu'on n'en parle pas. Et quand on en parle trop, ils gueulent parce qu'on en parle trop. Mais les plus durs, bon, moi je connais par cœur les supporters de l'OM parce que j'en suis un et que tous mes potes le sont, mais les plus durs dans tous les clubs, avec les clubs, c'est les supporters.
Mais bien sûr, évidemment.
Ceux qui sortent le lance-flamme pour massacrer les mecs.
Bon, on le remercie d'être venu, Serge.
C'est normal, il a dit pas les mêmes.
Mais c'est normal d'un autre côté. Ils payent toute l'année, ils remplissent le stade pour voir ça. Donc ils ont le droit de gueuler, il manquerait plus que ça.
Et pour son plus grand plaisir, on va continuer de parler de l'OM dans un instant.
Serge, ouais.
Parce qu'on va faire le procès de tous ceux qui se réjouissent d'un départ de Léo Balerdi. Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h31 sur RMC, on est là, on est bien dans Rotten sans flamme. On continue l'émission avec Eric Di Meco, avec Christophe Dugarry, avec Benoît Boutron. On remercie Serge encore là, ça va mieux. Apparemment, il s'est un peu calmé.
Non mais là où il avait raison quand même. C'est que tu en as fait quelques-unes des saisons de merde quand même.
C'est sûr, mais on en a tous fait.
Il y en a qui en ont fait plus que d'autres quand même.
Moi aussi.
Moi j'ai pas souvenir.
Tu penses que t'en as fait plus que moi?
Par
contre, même dans les saisons de merde, très souvent je gagnais au vélodrome, mais ça c'est bien. Avec n'importe quel
Attends,
tu peux vérifier.
Tu es né dans la bonne génération.
C'est ça.
Dans un quart d'heure, on sera avec Bruno Derien pour parler de la sonorisation de Benoît Bastien hier lors de Lyon-Lorient. Est-ce que c'est ça l'avenir de l'arbitrage français? Est-ce que ça va nous aider à régler les problèmes de l'arbitrage? C'était beau, il a été clair, il a été très
précis. Ils n'ont rien entendu dans les tribunes.
Mais si, pourquoi tu dis ça?
Bah non, je sais, on me l'a dit.
Allez, tout de suite, le procès, on y va.
RMC, Rotten sans flamme.
Sébastien, tu sais comment c'est? Si c'est un gros con, mais qui te fait gagner tous les matchs, eh ben, je sais pas pourquoi, moi je l'aime. Voilà, moi, les gros cons, j'ai joué avec des gros cons, ils me faisaient gagner les matchs, mais je l'aimais.
Le procès de Rotten sans flamme.
On peut donner des noms?
Bien d'accord.
Non, pas tout.
Je suis d'accord aussi.
On peut donner des noms.
Je joue avec un con qui me fait gagner qu'avec un gentil qui me fait rien gagner.
Exactement. Et puis le con, d'un coup, quand il te fait gagner, d'un coup, il devient moins con et puis ça peut même devenir un ami.
Alors,
si tu n'as pas de nom, hein.
C'est ça. Bah vas-y, ouais, moi j'ai une idée, j'ai des indices, des faisceaux d'indices, Eric.
Non, non, moi je. Okay. C'est toi qui.
Parlons donc du plus ancien joueur de l'effectif marseillais, le plus critiqué aussi, Léo Balerdi, qui devrait quitter l'OM en fin de saison après 6 années passées. Il a 27 ans. Il a tout connu à Marseille, quasiment 200 matchs disputés. Et on en parle avec Florent Germain, notre correspondant à Marseille. Salut Flo.
Salut les amis, salut, salut à tous.
Bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur le dossier Balerdi, Flo? Est-ce que le départ est acté en fin de saison?
Oui, il est très probable. Il est quasiment programmé. Alors évidemment, il faudra trouver un club qui acceptera de mettre les 20, 25 ou 30 millions d'euros que souhaiterait récupérer l'OM, mais il y a une question de timing et de contrat, parce que Balerdi, tu l'as dit, il est engagé avec Marseille jusqu'en juin 2028, donc en gros, le conserver dans l'effectif la saison prochaine et le laisser arriver à un an de la fin de son contrat, ce serait une erreur stratégique, donc ça, tout le monde en est conscient. Donc en gros, le clan du joueur et le club marseillais sont sur la même longueur d'onde par rapport à un départ cet été. Il faut rappeler que l'été dernier, l'OM s'était mis en tête que même à 40 millions d'euros il ne répondrait pas à d'éventuelles offres parce qu'il y avait un choix sportif qui avait été fait et acté à Miami d'ailleurs par Roberto De Zerbi, qui voulait absolument garder son capitaine pour en faire un taulier de la défense. A posteriori, on peut se dire que ça a été une erreur, mais bref, on va pas revenir en arrière. En tout cas, le joueur de son côté avait hésité les deux derniers étés, ça c'est une info qu'on peut vous donner. Il avait longuement parlé avec son entourage: est-ce que je reste pour laisser une trace à Marseille, un club qui m'est cher, ou est-ce que je pars pour pas faire l'année de trop? Cet été, pour lui, dans sa tête, c'est clair, il veut partir après la Coupe du Monde, parce que tu l'as dit, Benoît, il a 27 ans et il éprouve le besoin de donner un nouvel élan à sa carrière. Il a le sentiment d'être au bout de son aventure marseillaise.
Merci Flo. On va donc ouvrir ce soir le procès de tous ceux qui se réjouissent d'un départ de Balerdi de Marseille. On a un procureur qui va les accuser, c'est Eric Dimeco. Bonsoir.
Bonsoir.
Deux avocats.
C'est le monde dans la mer, con.
C'est vrai, c'est vrai. Deux avocats qui se réjouissent du départ de l'Argentin. C'est Jérôme Rotten, bonsoir.
Bonsoir.
Et Christophe Dugarry, bonsoir.
Bonsoir.
Et le verdict sera rendu par Jean-Charles au 32-16. Salut Jean-Charles.
Salut Jean-Charles. Bonsoir tout le monde.
C'est Jean-Charles, c'est le supporter de l'OM?
Oui, alors je crois que tu seras
Jean-Charles. Ah ouais, non, mais là j'ai perdu, là. Fais-moi venir le supporter de
Ça va être dur. En tout cas, si tu gagnes là, c'est que tu peux gagner n'importe quel procès.
Supporter d'Argentine, peut-être, on peut l'avoir.
Vas-y, Eric, alors. Pourquoi toi tu t'es dit qu'il ne faut pas se réjouir du départ de
l'OM? Mais non, mais tu fais. Je ne comprends pas ce monde où. Alors moi, je suis un des détracteurs de la première heure de Balerdi. Il y a des bandes, comme on dit dans notre jargon, puisque c'est plus les bandes de l'époque, mais il y a les bandes. C'est-à-dire que moi, mon propos à l'époque, quand il est arrivé, c'est-à-dire très jeune, que c'était un espoir en devenir, je pensais, et je le pense encore plus aujourd'hui, déjà à l'époque, que ce genre de joueurs-là, tu dois les fabriquer toi. C'est-à-dire que de la post-formation, c'est pas la peine de la payer 15 millions pour la faire.
Il avait été acheté, lui, je crois. Mmh.
11 ou 15, ouais, bon, voilà. Donc, 11, d'accord, bon, 11. Pour moi, ce genre de joueur-là, parce que moi, je vais dire, on se trompe plein de fois quand on juge des joueurs. Tous, on se trompe plein de fois. Mais il y a des fois, tes premières sensations sont la réalité. On a un peu joué au foot. Bon, mais moi, pour moi, je l'ai jamais vu avec j'ai vu assez rapidement que il était limité peut-être pour un club comme l'OM, et que il avait des absences qui seraient peut-être difficiles à gommer. Après, il a des qualités, bien sûr. Il est international argentin. Il a toujours joué sous tous les coachs. Il y a pas de souci. Sauf que moi, ce qui me contrariait, c'est que ce genre de joueurs, c'est-à-dire ces jeunes joueurs, parce que tu les as acheté 11 millions, tu les fais jouer, et comme par hasard, ils progressent et ils deviennent titulaires. Mais fais ça avec tes jeunes aussi. Sauf que tes jeunes, au bout de 3 matchs, ils ont pas droit à l'erreur. Ils dégagent s'il faut un match moyen. Voilà. Donc c'est un peu le reproche que je faisais à l'OM, mais souvent dans l'histoire de ce club-là, ça a souvent été le cas. Voilà. Même Lyon, même Paris, faut jouer des jeunes qui refont jouer. Même dans l'équipe du Paris d'aujourd'hui, ben vous avez des jeunes qui, quand sur le banc, banc, vous avez des jeunes. Ils sont pas allés acheter tous les joueurs qu'il y a sur le banc. Mmh. Vous les avez fabriqués, les remplaçants. À Lyon, on n'en parle pas, ils sont sur le terrain, ou encore mieux. Donc, pour finir, donc, ce gamin qui, a joué tout le temps, qui, on peut pas lui enlever qu'il a l'amour du club, qui s'est toujours battu sur le terrain, moi, je suis content de le, je pense que son histoire est finie. J'aurais aimé qu'elle se finisse avant, mais de se réjouir du départ d'un joueur comme ça, surtout après ce qui lui est arrivé, où on lui a sauté dessus à pieds joints alors qu'il était à terre, comme dirait l'autre. Moi, c'est trop facile, quoi. Voilà. Bon. C'était avant qu'il fallait l'ouvrir, c'est pas maintenant.
Alors, Duga, pourquoi tu te réjouis, toi, alors?
Non mais déjà je me réjouis pas, mais je vois pas en quoi je suis coupable d'un procès et dois être la victime d'un procès.
Ah mais non
procès,
mais il se réjouit pas,
t'es avocat.
Non mais je vais pas
verser une larme parce que Balerdi décide que c'est la fin de son aventure avec l'OM. Voilà, moi depuis le début, ce garçon ne m'a pas convaincu. Je te dis pas qu'il est mauvais, je te dis pas que c'est un nul, je te dis pas qu'il est à jeter. Bien évidemment que je te dis pas ça. Je pense que à l'OM, il a essayé. Il n'a pas réussi, il doit aller essayer ailleurs et je lui souhaite de réussir ailleurs. Mais aujourd'hui, me dire que je me réjouis, déjà, je trouve que ça n'a rien à voir, ni parce que dans ces conditions, même Eric se réjouit puisqu'il t'a dit « je suis pas mécontent qu'il s'en aille ». Ça veut dire quoi se réjouir? Je vais pas faire une fête demain matin ni un anniversaire parce que Balerdi s'en va. Voilà, je pense que c'est une bonne chose pour tout le monde, parce que les supporters en auront le bol, lui en aura le bol. C'est pas nullissime, mais je pense qu'il a aussi besoin de jouer avec d'autres partenaires. Peut-être qu'un entraîneur ou un club lui mettra un partenaire à la hauteur de ses qualités ou de ses défauts qui sera compensé que si que là. Et je pense qu'il doit découvrir un autre contexte. Je pense que ce garçon, il est un peu à l'image de beaucoup de joueurs qui jouent sur la grinta. Voilà. C'est un joueur qui joue sur la grinta. Mais au bout d'un moment, alors qu'il a les qualités pour jouer autrement, quand tu mets trop de grinta, trop de motivation, trop d'envie, trop de machin, t'en perds toute ta lucidité. Et je pense que c'est un garçon qui est victime, au bout d'un moment, d'une forme de caractère, d'argentin, tu vois, de mec qui veut toujours en donner des caisses. Arrête d'en donner des caisses. Essaie de jouer simplement, de faire les choses naturellement, et pas vouloir toujours mettre des coups, anticiper, faire un peu la fouine, mettre un peu le bordel. Au bout d'un moment, je trouve qu'il faut qu'il sorte de ce contexte-là. Alors, est-ce que c'est le contexte marseillais qui a fait que, je n'en sais rien, mais au bout d'un moment, ce garçon doit aller voir ailleurs et je lui souhaite bien évidemment le meilleur pour le reste de sa carrière.
Est-ce que toi tu t'en réjouis, Jérôme? Pour l'OM?
Écoute, j'aime bien l'OM. Non, mais c'est pas une question de s'en réjouir, mais l'OM a besoin d'avoir un capitaine, alors parce qu'il était capitaine en début d'année, avoir un capitaine différent. Alors après, qu'il soit dans un effectif, Balerdi, ça me choque pas plus qu'un autre. C'est pas grave, tu vois, tu peux l'avoir à Marseille. Il y a des défenseurs aussi qui ont pas beaucoup joué. Je pense de Egan Riley. Ah,
celui-là, tu l'aimes beaucoup moins.
Non, mais je l'aime pas du tout. Ouais. Non, mais les deux, pour moi, c'est la même chose. Sauf que t'en as un qui a joué malheureusement 200 matchs. Je dis malheureusement parce que très souvent 200 matchs à l'Olympique de Marseille, tu dois retenir des bonnes saisons et des bons passages et des bons matchs. Ben c'est trop peu en fait sur l'analyse. Donc aujourd'hui, en effet, je dis pas que ce joueur-là ne mérite pas d'être professionnel et qu'il est international, donc il faut que ça se respecte. Moi, j'ai du mal, en effet, à voir ses qualités, et d'autant plus quand le bateau, il tangue, et à Marseille, il tangue très souvent, t'as pas l'impression que lui, il soit le capitaine de ce bateau pour essayer de rendre une équipe beaucoup plus difficile à contrer. Et surtout, encore une fois, c'est trop d'erreurs individuelles. Dans un club comme Marseille, tu peux pas te permettre. Marseille qui vise le haut du tableau, qui vise le podium et tout en Ligue 1, c'est une trop grosse prise de risque de jouer avec lui derrière. Alors encore une fois, tu sais, tu peux l'avoir dans l'effectif. Le problème, c'est qu'il l'a re-signé il y a quelques années, qu'il lui reste 2 ans de contrat à la fin. Donc c'est pas gratos. Et je ne vois pas. Et Balerdi, je trouve que en plus de ça, t'as l'impression qu'il s'aime bien. Du moins, c'est pas qu'il s'aime bien, c'est qu'il se voit beau, un peu trop beau même par moment. Et je pense que en effet, et c'est embelli par la sélection. Il est quand même en sélection d'Argentine, qui est championne du monde. Donc ça doit le rendre encore plus solide. Dire mais ce qui m'arrive à Marseille, c'est pas mérité. C'est peut-être mes coéquipiers, c'est peut-être le contexte.
Il manque d'humilité, tu trouves?
Mais je pense qu'en effet, Balerdi, malheureusement pour lui, vu le nombre de matchs qu'il a, au haut niveau. Non mais le
c'est plus un style qui se donne sur le terrain, mais en fait c'est vraiment pas mauvais. mais en fait, dans l'attitude.
Non, non, mais Flo, t'as raison, et tu le connais mieux que moi.
Je crois qu'il force un peu le trait là-dessus.
Et tu
il a besoin d'aller souvent provoquer pour rentrer dans son match. Je crois qu'il a pris conscience ces dernières semaines, et un peu tard, que c'est peut-être une erreur. Il a pris une grosse claque, par exemple, contre Toulouse en Coupe de France, parce qu'il a été chambreur avant de se faire chambrer, parce que lui, il loupe son tir au but, et l'OM est éliminé. Et il l'a pris comme un retour de boomerang. Et sur les matchs qui ont suivi, à part un petit coup de chaud avec Balogun, vous regarderez qu'il est resté un peu plus sobre ces dernières semaines. Voilà, mieux vaut tard que jamais. J'ai l'impression qu'il a un peu pris conscience que ça n'est pas surjoué.
Mais tu vois, moi, je finis juste là-dessus. Et tu as raison de le dire. Le pénalty contre Toulouse qui rate, alors bon, c'est malheureux pour lui. Hein. Il le rate, le pénalty, il aurait pu le mettre. Mais déjà, ça montre à quel point il n'a pas de recul, si tu veux, sur sa qualité. Parce que franchement, Balerdi, rappelle-toi, c'était celui qui avait raté contre Annecy. Et là, il s'est dit, bah écoute, j'ai le caractère, la force, le truc, et je vais y arriver. Manque de bol, tu l'as raté. Bon. Donc, si tu veux, plein de signaux comme ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour l'OM et pour lui de se séparer. Mais attention, s'ils en veulent 30 ou 40 millions, parce que c'est plus ou moins ce que j'ai lu.
Non. Là, 40 millions, c'était leur souhait ultime de l'été dernier. Là, ça va être du 25, 30 millions maxi.
Alors, Jean-Charles, vas-y, rends ton verdict. Qui remporte ce procès? Éric Dimeco ou la doublette du Gary Roten?
Moi, je pense quand même que j'irais bien rejoindre Eric. Parce que
bravo, Eric, incroyable.
Le terme est fort, mais au final, en fait, on se aperçoit que tout le monde est d'accord. L'ère Balerdi, elle est terminée. Il a apporté, mais il n'a pas le costard qu'on lui a donné. Aujourd'hui, il est trop sous pression. Il réagit vraiment trop à l'émotion. Et il est, même en termes de talent, je trouve qu'il n'est pas... Il n'est pas là où Marseille veut être demain. Aujourd'hui, c'est le plafond de verre. De toute façon, quand on arrive de Dortmund, si Dortmund le lâche si jeune, peut-être qu'ils ont détecté des choses chez lui. Je pense qu'il a fait partie du projet de Longoria pendant très longtemps. Et là, je pense que ce sera un soulagement malgré tout. On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on retrouve, mais il faut reconstruire sans lui, je pense, aujourd'hui. Mais
merci Jean-Charles. Victoire d'Éric dans ce procès.
Du gars,
moi, je préférais Serge.
Il y a de grandes chances s'il fait le bon choix de club avec le bon entraîneur, le bon environnement, qu'il fasse une belle fin de carrière. Attention. Il n'y a pas à pleurer. Chez nous, c'est dur chez nous. Hein, c'est pour ça
je pense, Eric, à condition qu'il sorte de ce costume-là, d'espèce de provocateur, de héros, un peu comme les Argentins. Tu vois, il s'est mis un costard, sincèrement, qu'il n'est pas capable de gérer. Pour jouer comme ça, pour jouer comme ça, le méchant sur une carrière, il faut avoir des sacrés machins accrochés. Parce que tu es constant dans le conflit. Tu te sors du match, tu es dans la provocation, tu te fais provoquer, tu rates un penalty, tu es amené à faire des erreurs. Et tout, il faut être sacrément solide. Et je pense qu'il n'a pas le costard pour faire le mec qui provoque.
Merci Florent Germain d'être venu. Salut Flo. Et dans un instant, on accueille Bruno Derrien dans le Allo Jérôme pour parler de la sonorisation des arbitres de Benoît Bastien hier, qui c'est la première fois de l'histoire qu'on a entendu une explication de l'arbitre dans un stade et chez un diffuseur. A tout de suite sur RMC.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h49 sur RMC, on est là, on est bien dans Roten sans flamme, on continue l'émission, on est avec Christophe Dugarry, avec Eric Dimeco et avec Benoît Boutron. Dans un instant, on va recevoir Bruno Derrien pour nous parler de la sonorisation des arbitres. On a découvert ça hier sur le match de Lyon-Lorient. Et puis à 19h, on va parler du champion d'Europe.
Parce que
demain en route...
Tout droit
pour les demi-finales.
Vers la deuxième étoile pour les Parisiens. Quart de finale, retour de Ligue des Champions. Liverpool, promo, Paris Saint-Germain. Code pour promo, la Casa d'Imeco. Allez Paris.
Alors Paris champion,
c'est bizarre. C'est bizarre sur le match aller. Il y avait Barça, Atlético. C'est bizarre. Hein. On essayait de mettre la chaîne du PSG, ça marchait pas.
Mais vous aimez pas le beau foot. Vous aimez pas le beau foot, c'est fou.
Ah non, c'était bien aussi. Attends, Barça, Atlético, c'est bien aussi.
Tu sais, le problème à partir des demi-finales, Eric, c'est qu'il y a plus qu'un match par soir. Donc là, il y aura plus le choix.
Oui, mais on va trouver le truc aux États-Unis. Ouais. Il va y avoir les playoffs NBA. Mais
toi qui es amoureux d'Anfield, tu es obligé de mettre le match demain.
Ah ouais,
c'est pas possible.
Bien sûr.
Non, mais le retour du Barça, ça va être beau, là.
Bon, allez, parlons d'arbitrage tout de suite. Allez.
Doublé.
RMC, Bretagne sans flamme.
Après visionnage, situation de potentiel pénalty. Au préalable. Faute du numéro 77 de Lorient. Décision finale. Pas de pénalty. Coup franc.
Allô Jérôme.
Et voilà un arbitre ovationné par un stade. Moment d'histoire hier soir lors de Lyon-Lorient. Explication voilà. En direct pour les spectateurs.
Ah, ils font les coques là.
Et les téléspectateurs d'une décision arbitrale. Benoît Bastien qui annonce la décision de ne pas accorder de pénalty à Lorient alors que Lyon menait 2-0. On accueille Bruno Darnien.
Lui il aurait fait le coq.
Ex-arbitre international pour en parler avec nous.
Salut Bruno.
Salut Bruno.
Bonsoir Jérôme, bonsoir à tous.
Ça va Bruno ?
Ça va très bien.
Bon, toujours un plaisir de t'entendre.
Ouais. Plaisir partagé.
Écoute, bon alors, t'as aimé hier l'intervention de Monsieur Bastien ?
Bah ouais, on peut penser d'abord que la VAR l'a appelé pour tester le dispositif, parce que l'absence de pénalty ne semblait clairement pas être une erreur manifeste. Ils avaient fait chou gras le week-end avant, lors de PSG Toulouse, où l'arbitre Eric Vatelier devait le tester, mais il n'a jamais fait appel à la VAR parce qu'il n'y a pas eu d'action confuse. Donc on a vu donc hier comment ça pouvait se produire. Moi j'avais déjà remarqué lors de la Coupe du Monde féminine en 2023, ça avait été institué. Moi je trouve que c'est bien, ça contribue à plus d'ouverture et de compréhension de l'arbitrage auprès du grand public. On comprend mieux les décisions de l'arbitre. Alors on pourrait même aller un peu plus loin, on pourrait aussi entendre les échanges entre l'arbitre et ses assistants sur le terrain, les assistants VAR par exemple, mais également des micros sur le maillot des arbitres, on pourrait entendre ce qui se dit, le ton de certains joueurs à l'égard des arbitres, ou peut-être aussi on entend des fois dire que les arbitres parlent mal, je sais pas. Ça serait intéressant parce qu'on est dans une ère où on veut tout voir, tout entendre, alors pourquoi ne pas aller plus loin?
Qu'est-ce que vous en avez pensé vous Jérôme?
Moi je veux pas aller plus loin. Moi, je trouve ça très bien pour la compréhension. Je pense que c'est un outil supplémentaire à la VAR.
Ouais.
Voilà, qui pour encore mieux comprendre les décisions. Mais je veux pas que ça devienne du foot américain. Moi, pas encore plus de choses, pas encore plus écouter ce qui se dit, les arbitres, les mains. Non. Moi, il faut quand même que ça reste quand même le plus fluide possible. Je suis pas,
tu veux pas comme au rugby, par exemple.
Non, mais moi, j'aime.
Non.
Au rugby, c'est pas dérangeant, du gars.
Une décision comme ça, parce qu'elle était souvent incomprise. Non, au rugby, il y a moins de discussions. Donc c'est
ça, c'est vrai.
L'arbitre qui parle et les joueurs qui écoutent. Ouais. Au foot, si tu commences à voir, tu vas voir le joueur qui va dire un truc et après ça va être l'arbitre et si l'arbitre il m'explique une décision, il dit au joueur voilà, je vous mets à 10 mètres parce que vous avez contesté, ça me suffit. Mais j'ai pas envie d'écouter j'ai pas envie que ça devienne un truc de voyeurisme là, tout ça pour essayer de tout comprendre. Au bout d'un moment, il doit y avoir un discours clair aussi entre l'entraîneur et le joueur. Et l'arbitre, qui est le chef, qui dirige, qui machin tout ça. Bon, moi, ça ne me pose pas de problème avec ça. Et le public n'est pas obligé de tout savoir non plus.
Non, mais
il y a des choses pour la parfaite compréhension du foot et voilà, de rendre les choses beaucoup plus compréhensibles.
Mais hier, ça t'a plu.
Je pense que ça, c'était essentiel. Ah, mais ça m'a plu. Okay. Je trouve ça très, très
bien. Non, mais moi je pense que déjà, c'est un bon signe envoyé, si tu veux, sur la compréhension du VAR, parce que c'est vrai qu'il y a souvent, malheureusement, des incompréhensions, que ce soit des spectateurs, des supporters, même des acteurs et aussi des téléspectateurs.
Ça va dans le sens de Lyon, au Groupama Stadium.
Ça serait marrant de trouver quelqu'un qui trouve que c'est pas une amélioration.
Non, mais
certains peuvent te dire que ça sert à rien.
Non, ouais, mais c'est
possible.
Non, mais ça sert. Et puis après, Bruno te le disait aussi. Et Bruno, moi, on a beaucoup échangé sur l'arbitrage. Et Bruno, moi, j'ai eu l'occasion plein de fois qu'il m'arbitre à cette période-là. Non, mais
des bons souvenirs, Bruno, d'ailleurs.
Oui, toujours des bons souvenirs.
Sauf une fois, un match à Monaco.
Avec des mecs comme Jérôme, tu peux arbitrer pendant 40 ans.
Il nous a volé un titre, mais c'est pas grave.
Eric, c'est différent.
Moi, contrairement. Bon, donc, moi, tout ce qui peut fluidifier, expliquer le football et peut-être même faciliter la tâche des arbitres, parce que pour moi, ça permet aussi d'éviter certains débats. Donc, je suis pour. Et moi, je vais plus loin, puisque c'est un de nos chevaux de bataille, avec Adrien Aiguin, Moscato Show. C'est comme on aimerait, comme au rugby, que les arbitres soient sonorisés. C'est-à-dire que, en effet, au rugby, c'est dans la culture, c'est plus pacifié, il n'y a pas de souci. Sauf que les joueurs, quand ils vont parler à l'arbitre, ils savent qu'ils sont enregistrés. Et d'ailleurs, il y a des moments super dans le rugby où, avec des échanges avec les arbitres. Mais moi, tout ce qui me gonfle dans le foot, là, et tout ce qui nous gonfle, quand on y jouait, on y participait sûrement, mais après coup, ça nous gonfle. C'est-à-dire ces amalgames, là, où ces mecs qui viennent parler à l'arbitre et peut-être même lui dire des... Si l'arbitre était sonorisé, je peux te dire qu'il y en aurait moins. Et ça, et ça fluidifierait le jeu, et ça éviterait toutes les discussions qui servent à rien. Et voilà. Et c'est rien de grave de sonoriser. Alors, je crois que les arbitres veulent pas trop, mais moi, je trouve ça dommage, parce que dans le rugby, ça marche bien.
Bruno. Je suis assez d'accord avec avec Eric. Il y a trop de contestations autour de l'arbitre.
Merci Bruno, trop de
palabres. Excellent. On vient toujours. Normalement, il y a que le capitaine qui peut éventuellement échanger avec l'arbitre. Point barre. Et personne d'autre. Bon, voilà.
Ouais, mais c'est jamais le cas.
L'arbitre sous la pression physique des joueurs a toujours être contesté. Des attaquants qui sont à 30 mètres des fois d'une action qui courent vers l'arbitre pour contester une décision d'un.
Mais il y en a pas, il y en a plus de ça, Bruno. Il y en avait à ton époque, à notre époque à nous, mais ça n'existe plus. Ça, les joueurs, c'est des agneaux maintenant. Il y en a très peu.
Les choses ont changé avec la VAR, mais non, les images, tout ça, je suis d'accord.
C'est vrai que les deux casse-couilles que vous étiez, les deux là, il y en a plus. Mais sinon.
Oui, mais bien sûr qu'on était immondes.
Bruno, alors est-ce qu'il faut le démocratiser absolument la saison prochaine? Est-ce qu'il faut que la Ligue mette les moyens pour que tous les arbitres soient équipés à chaque match?
Je pense que c'est une volonté générale. Oui, il faut que la Ligue débloque des budgets, même si je crois comprendre que c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'il n'avait pas encore mis en place. Je pense que tout le monde salue cet effort. C'est quand même le but de cette sonorisation, c'est de rendre quand même les décisions arbitrales plus lisibles et plus compréhensibles pour les spectateurs et les téléspectateurs.
Et est-ce qu'il faut le cantonner aux situations d'arbitrage vidéo ou est-ce qu'on peut l'élargir un peu?
Commençons déjà par ça, ça expliquera, et on le voit d'ailleurs, la DTA, la direction technique de l'arbitrage, le fait tous les lundis sur le site de la fédération, tous les cas un petit peu qui prêtent à polémique sont analysés, et ils rendent même public des échanges entre l'arbitre.
Bon, après, ils sélectionnent un peu trop les matchs, quand même.
Bon, mais ça va dans le bon sens, il faut aller dans la transparence, il n'y en a rien à cacher, il faut dire des choses.
Merci Bruno.
Bruno, parfait.
Avec plaisir.
Voilà. Merci beaucoup Bruno.
Bruno, tu peux.
Merci, de rien.
Oui. Non, il est con lui.
Benoît, spécial dédicace à Stephen Brun qui nous écoute et qui m'a dit c'est les blagues à Stephen. Merci Bruno.
Salut Bruno.
De rien. Allez, dans un instant.
C'est Steve alors.
Roten ce show. Il nous veut. Ouais. Eh ben, écoute, il nous embête. Il nous castre pendant l'émission.
Un peu ce Steve aussi, hein.
Ah, bah, ouais, c'est ça. Dans un instant, Roten se chauffe. Le projet du PSG dépend-il uniquement de Luis Enrique? À tout de suite sur RMC.
RMC, jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Vous avez aimé la première partie? Alors écoutez tout de suite la deuxième partie de Roten sans flamme.